100% d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et à toutes. Depuis plus de 3 mois, ils sont des milliers à se rassembler presque chaque jour dans le centre de Banja Luka. Banja Luka, capitale de la Republika Srpska, l'entité serbe d'une Bosnie-Herzégovine toujours divisée. L'objectif des manifestants, exiger que toute la lumière soit faite sur le meurtre de David, un jeune homme de 21 ans retrouvé mort dans un ruisseau. Les manifestants accusent les autorités de protéger les auteurs du crime. À Banja Luka, un reportage de Laurent Gélin.
Tous les jours, ils sont quelques centaines, quelques milliers, parfois 10 000 à manifester pacifiquement dans le centre de Banja Luka. Le meurtre du jeune David Dragicevic n'aurait pu rester qu'un fait divers, mais il a réveillé toutes les frustrations de la population de la Republika Srpska, l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine. Cet étudiant en électronique a disparu dans la nuit du 17 au 18 mars et son corps mutilé a été retrouvé quelques jours plus tard dans une petite rivière. L'enquête bâclée de la police a provoqué l'indignation de l'opinion publique qui accuse le pouvoir de protéger des puissants. Maria vient au rassemblement aussi souvent qu'elle le peut.
Nous sommes venus pour soutenir ce rassemblement, pour que le meurtre de David soit éclairci. Nous voulons obtenir la vérité pour que nous puissions enfin nous sentir en sécurité en tant que citoyens de cette ville.
Sur Facebook, le groupe Pravda za Davida, Justice pour David, regroupe plus de 300 000 personnes, des citoyens de Republika Srpska, mais aussi de toute la Bosnie-Herzégovine et même de l'étranger. Daniela Ratešić est l'une des organisatrices des rassemblements.
Nous attendons beaucoup de gens qui vont venir d'autres villes de Bosnie-Herzégovine. Nous savons aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues de la diaspora. Ce sont nos compatriotes qui vivent depuis longtemps à l'étranger. Bien sûr, ils sont très concernés par tout ce qui se passe ici. Le plus important aujourd'hui est de soutenir les parents qui vont exprimer leur douleur ici, sur cette tribune. Nous devons soutenir leur combat pour la justice et la vérité pour leurs enfants.
Davor Dragicevic, le père de David, a le verbe haut. Il galvanise la foule et dénonce les responsables de l'entité, devenu bien malgré lui une icône de la colère sourde qui se répand en Republika Srpska. Il menace les autorités à la tribune. Si la vérité sur la mort de son fils n'est pas établie avant les élections d'octobre prochain, le scrutin n'aura pas lieu.
On va vous montrer qui on est, vous les assassins, les criminels, les sataniques. Regardez-nous, nous sommes des gens qui réclamons la vérité, la justice et la paix, le respect des institutions. Regardez qui vous avez tué l'avenir de ce pays.
Depuis le début de la mobilisation, les parents de David ont reçu le soutien de personnalités publiques et d'artistes de la région. Et l'hymne des manifestations n'est autre qu'une chanson écrite par le jeune David avant sa mort, Klinac ou Ghetto, un jeune dans le ghetto. Les nationalistes bosniaques, croates et serbes qui contrôlent le pays depuis son accession à l'indépendance en 1991 risque une fois de plus de remporter la mise aux élections d'octobre, faute d'alternatives crédibles. De fait, cela fait bien longtemps que les citoyens ne croient plus aux scrutins qui se succèdent et qu'ils prennent massivement la route de l'exode vers l'Europe occidentale. Mais la mort tragique de David semble avoir commencé à faire bouger les lignes. Stefan Blagic est le fondateur de Restart, l'ONG la plus dynamique de Republika Srpska, qui participent à l'organisation des manifestations.
Aujourd'hui, il y a de très fortes pressions contre tous ceux qui essaient d'organiser des rassemblements pour David en Republika Srpska. Les gens sont arrêtés et interrogés par la police sans aucune raison. Aujourd'hui, la télévision publique a expliqué que le rassemblement était organisé par des criminels. Et ils ont notamment donné mon nom, mon adresse et mon numéro de carte d'identité.
Le pouvoir autoritaire qui dirige l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine serait-il en train de prendre peur face à ce réveil de la société civile? Il est encore trop tôt pour le dire, mais les mobilisations qui se déroulent depuis 3 mois auront au moins prouvé aux citoyens de Republika Srpska qu'ils peuvent demander des comptes à ceux qui les dirigent.
Des agriculteurs français pris à la gorge, des exploitations en faillite, la filière agricole en France est globalement en crise, des paysans surendettés vont même jusqu'à se donner la mort, on dénombre un suicide tous les deux jours. Pourtant, une région s'en sort plutôt mieux, c'est la Corse. Sur l'île, le secteur est toujours porteur et la profession de berger, notamment, attire de nombreux jeunes. C'est un reportage de Katia Michel.
Au milieu de ses 600 brebis entourées de 4 chiens, Serge Pisqueira est fier d'être la troisième génération de berger, un métier remis au goût du jour.
Et on est nés dedans, hein. Mon père était berger, mon grand-père était berger. On est trois frères, on est tous les trois bergers. C'est un peu un héritage qu'on a aussi. Et puis ça nous plaît, hein. on l'a pas fait mal volontiers. Hein. On ne nous en a pas obligés, au contraire, mes parents, ils étaient plus pour l'école que pour berger. Hein. Même moi, quand j'étais jeune, quand j'étais au collège, c'était un peu dégradant, berger. Quand on disait berger, mon père, il est berger, maintenant, c'est plus valorisé, on dira, quoi. Maintenant, on est à la mode.
Serge produit du fromage, le broccio, l'emblème de la Corse, bien sûr, mais également du fromage frais et de la tome. Comme la plupart des éleveurs, il écoule sa production sur les marchés des environs ou directement sur son exploitation. Et bien souvent, la marchandise est vendue et réservée aux habitués avant même d'être produite.
On a récupéré les clients de mes parents quand ils ont arrêté. Bon, on a continué aussi à faire la même qualité, quoi. Par rapport au continent, je pense qu'on s'en sort mieux, quoi. Sur le continent, c'est des gros investissements, c'est le double et le triple. Hein. Même nous, regardez, on fait du fromage, on a de la vente directe, on a des petits magasins, vous voyez, c'est pas tout la grande distribution et des gros groupes non plus, quoi. Bon, c'est des plus petites exploitations, peut-être qu'on se sauve pour ça aussi.
Alors, est-ce que vous voulez le goûter, le fromage ?
Mais avec plaisir, oui.
Ah, on va le goûter quand même.
La Corse compte environ 2800 agriculteurs. Ces 5 dernières années, 240 nouvelles exploitations ont été créées, principalement dans le secteur de l'élevage. Françoise Spinozzi gère les dossiers d'installation de jeunes agriculteurs au sein de l'ODARC, l'Office du développement agricole et rural de la Corse.
On a un nombre d'installations qui s'accroît. Cet accroissement, il peut être dû à de plusieurs facteurs. Le métier d'agriculteur commence à être reconnu comme un métier rentable en Corse, qui est valorisant, bien sûr financièrement, mais pas que financièrement. On est fiers de produire ce qu'on produit et de le vendre. Il y a un deuxième effet, certainement, c'est la revalorisation de l'aide à l'installation, puisque jusqu'en 2014, la dotation jeune agriculteur était limitée à 40 000 euros. Dorénavant, elle est déplafonnée, elle se porte à 65 000 euros. Donc ça peut aussi avoir un effet incitatif.
Circuit court, vente directe, marché de niche et élevage extensif, un modèle qui a fait ses preuves. Pour Joseph Colombani, le président de la Chambre régionale d'agriculture de Corse, la crise agricole sur le continent est avant tout due à une mauvaise orientation stratégique.
Il n'y a que deux manières de vendre, c'est soit on est moins cher, soit on est différent. Être différent, c'est naturellement facile, puisqu'on est une île en Méditerranée qui en fait est une montagne qui attire l'eau, donc qui attire une végétation précise, avec les animaux qui vont avec, et qu'on a su conserver. Ce qui veut dire que aujourd'hui, on arrive à élever des bêtes qui font un certain poids, qui produisent du lait, sur lequel on peut faire de la charcuterie, etc., sans avoir forcément une grosse intervention extérieure de type protéines végétales ou animales. On a des animaux qui sont particulièrement bien adaptés à une alimentation naturelle, on va dire, quasiment indépendante. Et ça, c'est dans l'air du temps. Et ils ont choisi la façon d'être moins cher. Et pour ça, ils ont dû énormément investir. Sauf qu'il faut rembourser. Nous, on a eu une remise en cause de ce type de développement. Nous, on veut être différents. Et dans cette niche-là, donc très authentique, très identitaire, respectueuse de l'environnement, eh bien on arrive à avoir une image de marque, qui finalement est une image de qualité, hein, bien souvent, et ça nous fait des prix intéressants, et ça nous fait vivre. On ne regrette pas, ça nous réussit, on n'a pas les suicides qu'il y a sur le continent, mais on est sur un autre type d'agriculture.
Dans les montagnes de Kastanich, à 1h30 environ de Bastia, au milieu des routes étroites et sinueuses qui mènent au petit village perché de Pedregadio, des chèvres et des cochons vagabondent tranquillement. Ici, pas de clôture, on pratique aussi l'élevage extensif. Une agriculture authentique que Paul-Simon Alfonsi, 23 ans, veut préserver. Il produit à l'ancienne du fromage, du saucisson et du jambon corse. Paul-Simon veut être le garant d'un certain art de vivre.
On est conscient du fait qu'il y a de moins en moins d'habitants dans le monde rural et que les gens n'y sont plus intéressés. Mais après, on se dit, bon, puisqu'on est les dernières sentinelles, autant jouer notre rôle à fond. Et puis on essaie de maintenir une certaine façon de vivre et dans le respect de la tradition pour pouvoir montrer aux gens notre culture et nos différences. Tout ce qui nous différencie des autres façons de travailler en Europe et dans le monde. Et s'il n'y a plus personne pour s'occuper des villages, de l'entretenir, tout ça, il ne restera plus grand-chose de l'intérieur d'ici très peu de temps. On se contenterait de faire le tour de la côte et le reste, ce serait de s'attendre aux oubliettes. C'est compliqué tous les jours, mais on essaie de faire de notre mieux.
La Corse n'est pas épargnée par l'exode rural. À Pedregadio, il ne reste que 17 habitants. Mais le berger passionné ne quittera pas sa montagne et la douce musique des clochettes des chèvres de Paul Simon rythmera toujours la vie du village.
Un reportage de Katia Michel réalisé avec le soutien de la Commission européenne. En France, on devrait en savoir un peu plus ce jeudi sur le plan vélo annoncé depuis des mois par le gouvernement. Si les progrès du pays en matière d'aménagement cyclable sont incontestables ces dernières années, le pays reste à la traîne de certains voisins. Alors dans quelle mesure et dans quel domaine? C'est ce que va nous dire Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Alors Daniel, est-ce qu'on sait ce que va proposer ce fameux plan vélo français?
Sauf surprise, les mesures seraient de trois ordres. D'abord, une amélioration des itinéraires vélo dans le pays, même si le schéma national vélo qui court jusqu'en 2030 est déjà en bonne partie réalisé. Il s'agirait ensuite, afin de favoriser l'achat de vélos à assistance électrique, de rétablir une aide d'État supprimée au début de l'année. Enfin, mesure qui serait totalement nouvelle en France, mais qui existe déjà en Belgique, il est envisagé de rendre obligatoire une indemnité kilométrique, actuellement facultative, que tous les employeurs peuvent verser à leurs salariés qui viennent travailler en vélo.
En ce qui concerne la pratique du vélo, comment se situe la France dans le peloton européen?
Depuis des décennies, la France compte parmi les pays européens qui ont délaissé le vélo au profit des véhicules motorisés. Si l'on considère les personnes déclarant pratiquer le vélo au moins une fois par semaine, on constate que les Néerlandais dominent largement tous les citoyens de l'Union avec un taux de pratique dépassant les 70%. Large pratique également, à plus de 55%, au Danemark et en Finlande, tandis que des pays comme l'Allemagne, la Suède ou la Hongrie pratiquent à environ 45%. Or, le taux de pratique en France n'est que de 18%, juste un peu meilleur que celui observé au Royaume-Uni et en Espagne.
La France est-elle également en retard en ce qui concerne les infrastructures et les pistes cyclables ?
De par l'étendue, la variété et la ruralité de ces territoires, l'Hexagone apparaît comme un pays idéal pour les balades, voire les voyages en vélo. Et il faut reconnaître qu'un gros effort a été fait ces dernières années en matière de voies vertes, des pistes exclusivement réservées aux cyclistes, ou de véloroutes qui sont des couloirs aménagés le long des routes secondaires peu fréquentées. Fin 2017, ces deux types de voies totalisaient plus de 15 000 km contre moins de 9 000 en 2010. Malgré ces progrès, la France reste bien moins dotée que l'Allemagne et ses 40 000 km de voies cyclables, soit 4 fois plus de pistes outre-Rhin si l'on tient compte de la superficie des pays. Le réseau belge est par ailleurs actuellement aussi étendu que le réseau français pour un pays 18 fois plus petit. Quant au Danemark, il fait presque aussi bien que la Belgique. Mais le record européen de la densité des voies vertes revient aux Pays-Bas qui, avec leurs 35 000 km de pistes, affichent une densité 30 fois supérieure à celle de la France.
Le bénéfice écologique du vélo se fait surtout sentir en ville. Qu'en est-il des grandes métropoles européennes ?
Si l'on s'en tient simplement à la longueur des voies cyclables dans les grandes agglomérations, Paris, avec 740 km de pistes et 25 000 places de stationnement, ne fait pas mauvaise figure face à Copenhague ou Amsterdam et leurs 400 km de voies. Mais, outre que ces deux villes sont plus petites et moins peuplées, les équipements de la capitale danoise, classée première ville cycliste européenne, sont beaucoup plus performants. En particulier, une majorité de voies cyclables de Copenhague se trouvent en site propre, c'est-à-dire isolées de la circulation automobile, automobiles et la ville ne comptera bientôt pas moins de 16 ponts réservés aux vélos. Si Berlin semble un peu distancé par Paris en termes de longueur des voies, avec 600 km, la capitale allemande est en train de se doter de 100 km supplémentaires de voies rapides pour vélos et prévoit 100 000 places de stationnement d'ici à 2025. Enfin, la plus vélophile des villes françaises, Strasbourg, est presque aussi bien équipée que Paris. Reste qu'en termes de qualité de l'air, ce qui compte, c'est la part modale du vélo dans les transports urbains. Et cette part n'est que de 5% à Paris contre 13% à Berlin, 22% à Amsterdam et 30% à Copenhague. Dans la capitale danoise, 60% des habitants qui vont travailler ou étudier le font à bicyclette.
Dernière question, Daniel. Est-ce que l'arrivée de l'assistance électrique va vraiment favoriser l'usage du vélo en Europe?
Certainement, dans la mesure où toute une partie de la population peu sportive ou plus âgée ne va plus hésiter à utiliser la bicyclette pour faire ses courses, se promener ou transporter les enfants. À cet égard, l'engouement des Français pour le VAE est spectaculaire puisqu'ils ont acheté 255 000 vélos à cité l'an dernier contre 134 000 en 2016, presque deux fois plus en un an. Cela dit, on n'a fait que dépasser les ventes de VAE de 2017 en Belgique et celles-ci restent supérieures aux Pays-Bas à près de 300 000 machines. Quant à l'Allemagne, les ventes y sont trois fois plus nombreuses qu'en France. Une consolation, l'Italie et surtout le Royaume-Uni font moins bien que l'Hexagone. En matière de vélo électrique, un des principaux freins à l'acquisition est évidemment le prix qui dépasse les 1000 euros en moyenne, d'où l'importance des aides publiques à l'achat qui explique le boom des ventes en France en 2017. Mais la suppression de l'aide d'État en 2018 risque de doucher cette année l'enthousiasme des Français, à moins, comme beaucoup l'espèrent, qu'elle ne soit rapidement rétablie.
Merci Daniel Vigneron de myeurope.info. On vous retrouve à la rentrée le 6 septembre prochain.
À bientôt Laurent et bonnes vacances.
Avec l'été, la haute saison est déjà bien entamée à Dingle, dans le sud-ouest de l'Irlande. Ce village de pêche de 2000 âmes et sa péninsule, très appréciée des touristes étrangers mais aussi des locaux, sont un concentré d'Irlande. Ils offrent à la fois un cadre pittoresque, des paysages de verdure, des panoramas exceptionnels sur l'océan Atlantique et quelques vieilles pierres médiévales. Mais attention, à la belle saison, Julien Lagache, on se marche un peu sur les pieds.
La réputation de village de pêche au charme intact de Dingle a largement dépassé les frontières. Sa renommée, il la doit d'abord à son image de carte postale vivante avec ses rues bordées de maisons colorées, rouge vif, bleu clair ou jaune tournesol, contraste saisissant avec les eaux sombres du port et le ciel irlandais capricieux dont les lumières donnent à la colline qui surplombe le village différentes nuances de vert. La péninsule entière est réputée pour sa route étroite, la Dingle Way. Son dénivelé irrégulier longe la côte et conduit au promontoire de Sleahead et à d'autres panoramas fameux tels que le port de Dunkin. Mais la cohabitation entre randonneurs, cyclistes et automobilistes peut s'avérer délicate, car l'été arrivé, Dingle est submergé de touristes venus étancher leur soif d'authenticité dans la soixantaine de pubs que compte la bourgade. On y goûte à la pêche du matin, accompagné de célèbres musiques traditionnelles. Autre passage obligé, le glacier Murphy's, enseigne très courue pour goûter des cornets aux parfums locaux tels que le brown bread, qui rappelle le pain noir irlandais, ou le caramel au sel de mer, évidemment. Les sorties en bateau sont d'ailleurs nombreuses, notamment pour aller observer au large les oiseaux, les baleines, les dauphins, ou plutôt le dauphin, puisque l'un d'entre eux, baptisé Fungi par les habitants, a élu domicile dans la baie et joue fréquemment avec les embarcations qui sortent du port. Mais la péninsule de Dingle, bande de terre la plus occidentale de l'île, fait aussi partie du Gaeltacht, territoire historique où l'on préserve la langue irlandaise et où l'on croise de nombreux vestiges du passé, comme le fort de Dunbar, qui remonte à l'âge du fer, ou les ruines des châteaux de Galarus et de Minard, érigés au XVe et au XVIe siècle par le clan des Fitzgerald, la famille qui dominait alors la région.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition. On se retrouve demain pour une ultime émission avant notre série de rediffusion estivale.